L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 53e onde du bois. Bonjour Lionel.
Yes, salut Raphaël.
Lionel, alors juste avant de démarrer la chronique, écoute, j'avais une petite demande perso en fait.
Ouais, dis-moi tout.
Tu sais, j'ai un grand jardin chez moi, il y a des arbres un peu partout, c'est une sorte de verger mais voilà avec des vieux arbres.
OK.
Et j'aurais bien fait un peu de tronceau cet automne, pas maintenant, hein. Je sais qu'il faut pas couper les arbres au printemps, ça j'ai bien compris la dernière fois. Mais voilà, je me prépare un peu pour cet automne. Alors, du coup, mon voisin m'a prêté une tronceau, donc ça il n'y a pas de souci là-dessus.
Ouais.
Par contre, il n'a rien en termes de protection. Alors, moi, je ne sais pas. Lui, il fait ça à main nue. Moi, j'avoue que ça me tente pas trop.
Ah bah attends, on va parler d'équipement de protection individuelle. Ça, c'est super important. Hein. Surtout, voilà, faut éviter de se couper. Faut travailler protégé. On va en parler un peu, justement. Ça tombe bien. Tiens, je t'ai ramené le catalogue.
Ah, mais quel hasard.
On va faire du shopping un peu.
Ah bah ça, c'est génial. Écoute, tu vois, j'avais juste cette question. Bon, bah du coup, on fait la chronique là-dessus.
Bah voilà, on va faire la chronique sur les équipements de protection individuelle. Et on va partir déjà d'une phrase qui est souvent utilisée par les forestiers. Les forestiers, quand on parle de partir travailler en forêt, bah on dit souvent que ça revient à partir en guerre presque. Hein. Il y a ce rapport. Et en fait, c'est pas aller faire la guerre contre les arbres. C'est surtout qu'en fait, les premiers équipements de l'histoire, de protection individuelle, ils sont au service de la guerre. Tu vois, par exemple, l'histoire militaire est liée à l'histoire des équipements de protection. On retrouve vers les premières traces des armures. D'ailleurs, on parle d'armure plusieurs siècles avant notre ère, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ. Hein, les hoplites grecs portaient déjà une cuirasse par-dessus leur tunique afin de protéger leur torse. Hein. Alors, du côté de l'Empire romain, c'est en 107 avant Jésus-Christ que la réforme marianique vient standardiser et perfectionner l'équipement dans l'armée romaine. Alors ouais, nous, c'est un peu notre héritage gallo-romain. Hein.
Ouais, ça, on voit un peu mieux avec l'espèce de balai brosse sur la tête. Astérix, en tout cas, je sais pas.
Voilà, c'est ça. Puis, en fait, tout ça pour te dire qu'en fait, même le mot EPI, équipement de protection individuelle, c'est arrivé très couramment dans notre langage depuis la fameuse pandémie du Covid-19. On en a vraiment beaucoup parlé. Et donc, EPI, équipement de protection individuelle, est tombé dans le langage courant quasiment aujourd'hui. Et donc, on a parlé un peu de l'Antiquité, de cette relation protection, guerre. Et puis, en fait, après, à partir du Moyen-Âge, après l'Antiquité, c'est l'époque, le Moyen-Âge, où les vêtements de travail jouent un double rôle, donc se protéger, protéger les travailleurs et déterminer la place de ces personnes dans la société. Chapeau, pantalon, chemise. En fait, au Moyen-Âge, chaque tenue utilisée était le symbole d'un métier qui avait une place dans l'échelle sociale. Ici, la question de l'équipement de protection était surtout liée à la capacité de pouvoir travailler avec des matières dangereuses, coupantes, en fusion. Par exemple, chez le forgeron, la protection est indispensable et elle est réservée à ce métier sans lequel il serait impossible de travailler autrement. Et puis après, plus loin, on va passer les 17e, 18e siècle, la Renaissance, et puis après 17e, 18e siècle, on va passer tout ça, on va arriver vers la Révolution industrielle, où là, à partir du milieu et jusqu'à la fin du 19e siècle, le pantalon denim est le pantalon de travail le plus utilisé par les agriculteurs, mineurs et artisans qui travaillent dans un environnement difficile.
Alors le pantalon denim, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le jean, c'est ça ?
Voilà, le jean, le fameux jean, c'est un vêtement en fait professionnel à la base, qui était destiné surtout à se protéger et à se protéger des salissures. En fait, il ne jouait qu'un rôle très mineur sur la protection des travailleurs. Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que les lois commencent à changer, avec notamment deux dates clés. La loi du 12 juin 1893 qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels. Et en fait, c'est la première loi à reconnaître un droit à la santé à tous les salariés en France. Et puis la deuxième loi, c'est la loi du 9 avril 1898. C'est une loi sur les accidents du travail établissant le principe de la responsabilité patronale. Voilà. Et puis après, on peut remonter encore comme ça le temps, enfin, plutôt plus proche de nous, des années 50 aux années 80. Par exemple, en 55 et 75, les taux des accidents du travail diminuent. On a remarqué que les taux d'accidents du travail avaient diminué d'un tiers en raison de la modernisation de l'outil et du développement de la sécurité sur les lieux de travail. En 73, le législateur consacre le concept de conditions de travail et crée l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. C'est la loi du 6 décembre 76 qui pose le principe de l'intégration de la prévention des risques professionnels à l'ensemble des situations de travail. Alors là, on s'écarte un peu des EPI, mais c'est quand même important, avant d'aller acheter des vêtements, hein, tu vois, avant d'aller s'équiper et de se protéger soi-même, sur soi, déjà d'anticiper et de prévenir les risques avant même de les prévoir sur sa propre personne. Et puis voilà, quoi. Après, bon, bah, il y a une influence européenne, hein, sur la protection, hein, en 91. Par exemple, dans les années 90, il y a de nombreux textes réglementaires qui sont relatifs aux équipements de protection individuelle. C'est là où on commence à utiliser ce terme-là, EPI. Il découle de la loi du 31 décembre 91. Donc voilà, ça concerne surtout les règles techniques applicables aux EPI, notamment sur leur certification, la conformité de ces EPI, les conditions de mise en œuvre et d'utilisation des EPI. Voilà. Et puis bah, maintenant, depuis, donc si on peut en parler aujourd'hui, des EPI, depuis une dizaine d'années, les fabricants et distributeurs de vêtements professionnels d'EPI, eh bien, ça s'est énormément développé au niveau du bûcheronnage. Hein. C'est vrai qu'on a souvent l'image d'Épinal, du bûcheron qui travaillait sans EPI avant. Hein. Il travaillait juste la chemise à carreaux, le pantalon en velours côtelé, et puis les sabots et le béret, tu vois. C'était le béret pour tout casque. Eh bien, aujourd'hui, on a toute une gamme d'équipements de protection individuelle que d'ailleurs tu peux feuilleter là, donc si tu veux un peu des renseignements.
Alors oui, tu nous as amené un catalogue. Alors je vais quand même décrire la couverture qui est magnifique. Ouais. C'est un catalogue d'équipements forestiers, c'est ça?
C'est ça.
Zimmer.
Ouais, c'est ça.
Et la photo de couverture, c'est quand même un drone qui survole une forêt.
Ouais.
Voilà. Alors, je sais pas si c'est vraiment un EPI, un drone.
Ah non, celui-là, surtout c'est du... On va en parler tout à l'heure, ça peut être considéré comme gadget, mais c'est surtout utile pour le forestier pour faire de la reconnaissance à partir de photos aériennes et de films pris du dessus, notamment sur les technologies LIDAR pour reconnaître les dépérissements de forêt. Mais là, d'accord, c'est un autre sujet.
Ok. Alors du coup, comme tu es sympa, tu m'as mis des petits signets parce que...
Des petits post-it. Alors voilà, du coup...
C'est très touffu, donc il n'y a pas que les EPI.
On va commencer par les chaussures, à la limite. Je peux te conseiller des choses sur les chaussures anti-coupure. Déjà, en bûcheronnage, on va utiliser des chaussures anti-coupure. C'est la base, hein, les chaussures. Il faut que déjà, on soit confortablement installé. Le bûcheron, il foule le sol toute la journée, il marche, il piétine, il court des fois, il grimpe les pentes. Donc il faut déjà que les chaussures soient confortables, ça c'est la première des choses. Et après, bah, il faut qu'elles soient anti-coupure.
Alors ça, ça m'étonne parce qu'on voit une tronçonneuse, on a vu la tronçonneuse à la dernière chronique, ça coupe quand même vraiment bien. Est-ce que ça peut vraiment arrêter une tronçonneuse des chaussures anti-coupure?
Alors les chaussures, ouais, tout à fait, elles sont normalement doublées en Kevlar dedans. Et puis il y a des coques, il y a une coque sur l'extrémité de l'orteil qui est plus ou moins enrobante, hein, au niveau du chausson. Et puis il y a des semelles anti-perforation. Donc en fait, le pied est en sécurité. Il faut savoir qu'il y a quatre classes de sécurité, de manière générale, qui sont prises en compte autant au niveau des chaussures que des pantalons anti-coupure. Donc on part de la classe 0. Classe 0, c'est pour des rotations de chaînes de tronçonneuse allant jusqu'à 16 mètres seconde. Ensuite, il y a la classe 1, qui est la rotation de chaîne qui va à 20 mètres secondes. La classe 2, c'est rotation de chaîne à 24 mètres secondes. La classe 3, c'est la rotation de chaîne qui va à 28 mètres secondes. Donc, en bûcheronnage, on sera équipé à partir de la classe 1, donc 20 mètres secondes. Et puis, on pourra aller jusqu'à la classe 3, selon la cylindrée aussi des tronçonneuses, parce que plus la machine est puissante, plus la chaîne tourne vite. On a également une relation de couple, hein, et de rotation par rapport à l'embrayage, au pignon, quoi, en fait. Et donc, plus on essaiera d'aller vers des classes de sécurité élevées.
Voilà. D'accord. Donc là, on a les chaussures. Ça y est, on n'a pas pris les chaussures de marche basiques. On a pris nos bonnes chaussures.
Ouais, donc chaussures de sécurité, anti-coupure, hein, pas de sécurité. Hein.
Voilà, oui, spécial bûcheron. Et voilà. Mais tu as parlé de pantalons. Donc il y a des pantalons anti-coupure aussi, c'est ça?
Alors les pantalons anti-coupure, ouais, les pantalons anti-coupure, bah, c'est pareil. On doit respecter les classes de sécurité. Bon, alors après, c'est selon sur le pantalon, en fait. On a donc des pantalons ou jambières de protection contre les coupures. Et alors si on a un usage professionnel, on ira plutôt vers un pantalon qui recouvre bien l'avant des jambes, au moins sur 180 degrés. C'est-à-dire que la couche, hein, c'est un système de couches, d'une empilation de couches en Kevlar pour empêcher... du coup, pour même arrêter la chaîne, en fait, c'est quand on va se donner un coup de tronçonneuse dans le pantalon, en fait, les fibres du pantalon vont rentrer dans l'embrayage et vont stopper la chaîne. Voilà, et donc, ça, on peut avoir la position des couches sur un certain angle par rapport à la cuisse ou par rapport au tibia. Donc, on peut avoir une superposition de couches à équivalent de 180 degrés, donc ça protège l'avant, jusqu'à 360 degrés, ça fait l'avant et l'arrière des jambes, parce qu'on peut se donner aussi des coups de tronçonneuse derrière la jambe. Donc ça, il faut le prendre en compte. Après, pour un usage, donc ça, c'est vraiment pour l'usage professionnel qu'on va se protéger les jambes avec un pantalon toute la journée. Hein. Donc c'est des pantalons qui sont quand même assez lourds, même si on a quand même progressé en termes de poids.
Alors moi, oui, j'ai un souvenir, j'étais allé à un chantier, un tout petit chantier de tronçonnage avec mon pantalon de tronçonnage et j'y étais allé en vélo et je peux te dire que je m'en souviens encore.
Ah ouais, tu m'étonnes. Il pleuvait en plus ce jour-là, non, j'imagine.
Ouais.
Parce que l'eau, quand elle rentre dans le pantalon, après, le pantalon, il est encore plus lourd. Et ah ouais, ça c'est, ouais, tu t'es un peu mis un petit handicap là.
Alors voilà, on est équipé en bas, ça y est, les ouais. jambes, les pieds. Qu'est-ce qui nous reste? La veste aussi?
Alors bah, la veste de sécurité, ouais, la veste, elle est principalement utilisée dans le cas de fortes précipitations. On va surtout aller chercher une veste qui soit imperméable, mais également respirante, hein, sur laquelle il y a une bonne évaporation interne. Donc, bah, ouais, parce qu'on transpire beaucoup hein, quand on travaille, donc on utilise des matières respirantes. Donc, il y a des membranes, on va parler de vestes avec des membranes. Alors, je ne vais pas citer de marque. Hein.
Non, mais bon, en gros, c'est des vêtements techniques.
Voilà, c'est des vêtements techniques. On insistera sur le fait qu'elles doivent être absolument de haute visibilité, donc soit jaune fluo. Et de plus en plus aujourd'hui, orange fluo, parce que le orange fluo se voit mieux en forêt que le jaune fluo qui, bah avec le frottement des branches, les écorces, tout ça, bah va progressivement se ternir et devenir un peu plus vert. Tu vois, le jaune passe au vert, donc c'est moins visible à terme. Voilà. Alors toujours, que ce soit pour le pantalon ou la veste, on est sur des vêtements de plus en plus légers. Ça, on peut le dire, c'est un peu grâce, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans en forêt, on avait des vêtements très lourds, très peu fonctionnels. Et en fait, cette amélioration du poids des vêtements correspond également au développement des professions d'élagueur. Et donc, les élagueurs, enfin la profession d'arboriste élagueur, élagueuse, a vraiment permis un développement et une amélioration du poids des affaires que porte le bûcheron. Et donc, c'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui, le bûcheron au sol, il a des affaires super légères, quoi.
Du coup, ça fait peut-être aussi que les gens les mettent vraiment. Parce que j'imagine que quand c'était vraiment très lourd et encombrant, et les bûcherons, la plupart, enfin, peut-être souvent, devaient un peu les enlever parce que c'était pas confort.
Ah bah oui, c'était pas confort. Et puis même, enfin, il y avait même des je pense au parka ou aux imperméables de pêcheurs, tu vois, qu'on mettait parce que c'était super imperméable. Ça revient à travailler avec une bâche imperméable sur soi. Et ben là, on était dans une étuve. Hein. En fait, le bûcheron se retrouvait dans une étuve et il l'a quitté tout de suite. Oui, c'est impossible de travailler avec ça, quoi. Voilà pour la veste, les pantalons. Et puis allez, après, je te conseille, on tourne les pages du catalogue.
Je regarde. Ah, voilà, on est sur les casques. D'ailleurs, tu en as amené un. Ah, bah c'est, il est dans le catalogue, je le vois.
Ouais, alors tu vois, les casques. Alors les casques, là, on est sur la protection de la tête. Donc c'est quand même hyper important de se protéger. Hein. La tête, ça fait tout. Hein. C'est vraiment... je dirais même la valeur du casque, elle est peu importante. C'est surtout la valeur de sa tête qu'on va mettre en jeu ici. Et ben voilà, quoi, c'est ce qui est le plus important. Hein. Et donc, y a plusieurs types de casques. Selon la durabilité du casque qu'on veut. Déjà, c'est un casque qui est équipé d'une visière, de coquilles anti-bruit, et puis c'est un casque dont la matière est fabriquée, donc alors c'est du plastique, hein, c'est principalement des casques en plastique, et selon la qualité du plastique, on va avoir des durabilités différentes. Les casques en polyéthylène, c'est une durée de vie de 3 ans. En polyamide, c'est 4 ans. Et en polyester renforcé, c'est 5 ans. Les casques qui se dégradent à partir du moment où on les met aux UV, au jour. Donc c'est à partir du déballage qu'on va calculer. Vous avez la date de fabrication du casque. C'est au déballage que le compteur commence à tourner.
Ah oui, donc c'est pas parce qu'on s'est jamais pris un arbre sur la tête qu'il faut garder son casque pendant 50 ans. Quoi.
Ouais, exactement. Exactement. Et puis il te reste les gants. Du coup, les gants, les gants, c'est surtout des gants souples, en cuir si possible, c'est quand même mieux, c'est plus durable, ça se perce moins, mais sinon aussi des petits gants en toile tissée avec un grip dessus en plastique, c'est pas mal pour manipuler le bois, quoi. Voilà. Voilà pour les OPI.
On est bien équipés. Bon, du coup, je vais si ça te dérange pas, je vais de garder le catalogue, je te le rendrai à la prochaine chronique.
Carrément.
Je vais regarder un petit peu.
Et pour du coup, pour madame aussi, parce qu'il faut dire aussi une chose, c'est que les EPI aussi évoluent aussi, il y a de plus en plus d'EPI pour les femmes qui sont adaptées aux femmes. Et donc c'est une offre super intéressante pour elles aussi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes en forêt. Voilà.
Et ben on va regarder ça ce soir en famille.
Voilà.
On va pas se quitter sans chanson.
Eh ben ouais, le bûcheron, il vit avec son temps, il revêt de plus en plus d'équipements avec des matériaux innovants, ingénieux, parfois aussi un peu gadget. Hein, et attention justement à ne pas se suréquiper ou vouloir aussi se déguiser. Hein. L'habit ne fait pas forcément le moine. On pourrait perdre du confort de travail si on était trop équipé. Allez, du coup, en parlant de gadget, on va s'écouter un titre qui s'appelle Gadget City. Le groupe de musique, c'est Noot. C'est trois musiciennes géniales. Delphine Joussin, qui est flûtiste. Raphaël Rinaudot, qui est harpiste. Et Blanche Lafuente, qui est batteuse et qui incarne, elles trois, un rock psyché divin qui nous protège par Noot, déesse égyptienne, qui avale le soleil chaque soir pour le remettre au monde le matin.